Radio-Télévision Suisse.
RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans votre dernière librairie francophone de la saison, dans sa formule classique en tout cas. Pour la transition avec l'été, on vous offre un grand florilège qui va vous faire rire et voyager. De l'humour aujourd'hui donc avec les histoires de Dany Laferrière, de Lynn Renault, Alain Chamfort, Leïla Slimani ou encore Jean Ziegler avec Tahar Ben Jelloun. Un voyage au Cameroun sur les traces du grand musicien Francis Bébé, sa fille Kidi Bébé et Manu Dibango lui rendent hommage. Une escale au Parlement européen à Bruxelles avec le roman du Belge Grégoire Paulet et une escapade chez Jean d'Ormesson pour un entretien délicat sur les mystères de l'existence. Et puis nos libraires vous conseilleront des livres pour l'été dans des domaines très variés et parfois même osés.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bien sûr, comme toujours, des libraires vont nous accompagner au cours de cette émission en multiplex, en Belgique, en France, en Suisse et au Canada. Avant de partir à Morges, en Suisse, pour une première histoire, nous avons le grand plaisir de vous annoncer une nouvelle émission que vous retrouverez à partir du 1er juillet. La librairie francophone estivale sera une déclinaison de la librairie francophone avec une ouverture sur toutes les disciplines culturelles puisque nous ne parlerons pas que de livres. Il y aura de nombreuses surprises. Chaque semaine, nous offrirons une carte blanche à une personnalité culturelle. Vous entendrez la rediffusion de grands entretiens dans une nouvelle version. On vous conseillera des livres de poche pour la plage. Il y aura aussi des reportages dans des villes francophones et pour la première fois, une séquence avec un humoriste. Bienvenue à RFI, Radio France Internationale, qui rejoint la coproduction pour cette librairie francophone estivale. Un programme qui sera ainsi diffusé à travers le monde à une échelle inédite dans l'histoire de la radio. On commence donc avec deux histoire personnelle racontée par deux de nos invités. L'un est académicien, il était avec nous en début de saison au bord du lac Léman. L'autre est une artiste complète, lumineuse et appréciée dans le monde entier. Autre chroniqueur de prestige qui nous rejoint, invité récurrent, chroniqueur de luxe, immortel de la librairie francophone. Bonjour Dany Laferrière.
Mais bonjour Emmanuel, mais c'est pas ce qu'on me dit. Les gens me disent, mais tu invites souvent Emmanuel Kérad dans ton émission.
Parce que je prépare la relève. C'est ça. Bon, merci d'être fidèle à cette émission, Dany, et d'être fidèle à tout ce que nous portons. Avez-vous une histoire personnelle liée à la Suisse pour commencer, tiens?
Ah, mais c'est-à-dire liée au temps, au moment, à l'instant présent. Et la Suisse donne l'heure juste. J'étais tout à l'heure à côté, à l'hôtel Mont-Blanc. Et je m'apprêtais, on m'avait réservé une chambre tout simplement pour me reposer parce que j'ai vraiment une liste. Oui. Et généralement, je me déshabille pour une sieste, une vraie sieste.
Oui, oui.
Il faut être nu.
Exactement.
Oui, il faut être nu.
À nu
et
complètement,
oui. Simplement en chaussettes, vous enlevez 10% de votre possibilité de vous reposer.
Pantalon
et chaussettes, 20%, chemisette, 30%, vous voyez.
Et caleçon,
alors, j'étais
et caleçon,
nu et j'allais me plonger. Et ça crée une autre ambiance que d'être, même si on est tout près, que d'être dans une chambre avec la pénombre, les draps blancs, le bruit de la mer,
oui,
les
oies,
les scies et tout. Et puis brusquement, le téléphone sonne. On m'a dit, c'est Emmanuel qui vous attend. J'ai dit, mais qu'il monte. Eh bien non, on m'a dit, non, il y a toute une pléiade, ton vieil ami Yasmina Kadra est là,
oui, c'est ça, oui.
Véronique est là, quelle partouze.
Vous êtes en super forme, c'est génial la rentrée avec vous, Dany Laferrière. Bonjour Lynn Renault.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez carte blanche, Lynn. Que voulez-vous transmettre?
Et alors, je ne savais pas, j'ai appris ça tout de suite, qu'il fallait trouver une anecdote. Bon, j'en ai une, mais je la trouve un peu osée.
Ah.
Parce qu'il faut que ça le soit quand même sur la francophonie.
Pas forcément, mais allez-y.
Ah bon, tant pis, j'en ai choisi une sur la francophonie. C'est-à-dire la première fois où j'étais invitée à aller chanter à New York.
Oui.
Et je me trouve pour le premier jour au Waldorf Astoria. Il y a une émission de radio comme ça, où il y avait Ingrid Bergman, Charles Boyer, Louis Jourdan, Aumont. Et la question, ça s'appelait Tex and Gix, la question est, alors racontez-nous une jeune Française, j'avais 22 ans, une jeune Française qui pour la première fois vient d'arriver à New York, a passé une nuit à New York, et quelle votre impression? Alors je veux être un petit peu sortir de It was wonderful. J'ai dit, je vais faire quelque chose d'un peu mieux, quoi. Alors, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai passé d'abord ma première soirée à regarder la vue qui ressemble à une peinture abstraite. Enfin, vous voyez, je pars dans un truc comme ça. Et alors, le lendemain, alors je dis le lendemain, j'ai goûté pour la première fois à un déjeuner continental. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Et là, je dis, après, I took a douche. J'ai pris ma douche. Et là, je vois Ingrid Bergman, je vois tout le monde rougir. Charles Boyer, tout ça. Je dis, à vous regarder tous rougir, j'ai dû dire une sacrée bêtise.
Et qu'est-ce que ça voulait dire, alors,
douche? À tout coup, douche, ça veut dire j'ai pris un bain de siège. À tout coup, douche. Alors que j'aurais dû dire à tout coup, shower.
Shower, ouais, c'est ça. Votre anglais s'est amélioré ou pas, Aline?
Moi, je fais encore des gaffes.
Très bien, vous avez raison. C'est ça, la francophonie. Bonjour, qui dit bébé?
Bonjour.
Mon royaume pour une guitare est paru aux éditions Michel Lafon. Vous racontez la vie tourmentée de votre mère, mais aussi et surtout de votre père. Francis, votre papa, va d'abord faire ses études de lettres à la Sorbonne. Il partira en France à son tour et croise son frère qui lui est parti à ce moment-là s'engager dans la voie de l'indépendance du Cameroun. Et puis, il va aux États-Unis apprendre le journalisme. Il devient un reporter radio. Il va interviewer Aimé Césaire, Frantz Fanon, Léopold Sédar Senghor, et de là naît une vraie passion, un vrai engagement pour la radio.
Un vrai engagement pour la radio, un vrai engagement pour les arts aussi. Je crois qu'il avait vraiment envie de faire entendre la voix, les voix de l'Afrique et du monde noir, comme on disait à l'époque, parce que ces voix qui avaient été très étouffées par la colonisation.
Et il deviendra évidemment un grand musicien que l'on connaît, mais surtout il est nommé à l'UNESCO avant ça.
Il est nommé à l'UNESCO, il devient fonctionnaire international. Donc il n'est pas nommé pour être diplomate camerounais, mais pour être fonctionnaire pour l'ensemble des pays du monde. Et voilà un travail très sérieux, très prestigieux, très apprécié par la famille, bien évidemment. Mais qui, lui, il va le laisser un petit peu maussade un certain temps.
Insatisfait, en tout cas.
Insatisfait, ouais. Voilà. On comprend, je comprends, et la famille comprend, surtout lui, que au fond, sa passion n'est pas du tout là.
Ouais, ouais.
Pas derrière les bureaux avec des cravates et des costumes.
Non, c'est plutôt du côté de la musique, on va évidemment y venir. On va écouter justement le son du monde, qui dit bébé, le principe, une musique habillée d'une voix. Cette voix lit un extrait de votre livre. Celui qui a accepté, vous le connaissez très bien, nous l'avons retrouvé hier dans un lieu symbolique, le Montreux Jazz Café, à la gare de Lyon, à Paris. C'est un grand musicien, une star mondiale, c'est Manu Dibango, qui va lire votre texte, qui dit bébé.
On t'entend.
Et cette musique, c'est aussi une surprise pour vous, à laquelle il a tenu, parce qu'il nous a transmis une musique à glisser comme ça, sous cette lecture.
Merci,
une composition de Francis Bébé et de Manu Dibango.
Idi ba ibu si wame, esewe. Wopakata, alea.
De retour à Paris, Francis s'achète une méthode, des médiators, un repose-pied, un métronome et bien sûr une guitare. Marcel ne lui a-t-il pas dit que ce manche et ses cordes les relieraient à jamais? Si tu pinces une corde, je le sentirai. Ainsi la musique nous permettra de nous rejoindre même si nous sommes très éloignés l'un de l'autre. L'apprentissage débute lentement. L'instrument est rebelle, revêche même. Gratter les cordes est une chose, jouer en est une autre. Il ne sait pas d'où lui viennent les notes. Peut-être les saisit-il comme on saisit les mots autour de soi pour en faire des phrases dans la clarté de l'air et le frisson du vent.
Aussi où tapait Bosso, on Mbwana e pasi ne pasi ongwa Bondi esa itele no tebile mai ongwa.
Vous retrouvez-vous dans ce texte, Manu Dibango? C'est ce que vous avez vécu vous-même quand vous avez expérimenté la musique comme Francis Bébé?
Alors, l'instrument lui-même, évidemment, on est amoureux de la musique, on est amoureux d'un certain instrument, mais il faut que lui soit amoureux de vous aussi. Alors, un certain temps pour se parler, se comprendre, s'aimer, et exactement ce qu'il éprouve là, c'est ce que moi j'éprouvais aussi avec le saxophone.
Que vous a-t-il apporté, Francis Bébé et Manu Dibango?
Ah ben, il m'a ouvert des horizons, hein, parce qu'il était guitariste. Moi, quand je l'ai rencontré, c'est il y a longtemps, quand même en 1951, dans une colonie de vacances, bon, non, on est resté 2 mois ensemble. Il était mon idole parce que forcément, il jouait pour moi. À l'époque, il jouait bien la guitare. Moi, je commençais le piano et j'avais une mandoline. Et il m'a ouvert le monde de l'harmonie. Il m'a ouvert le monde de Duke Ellington, la luxuriance et tout ça, vraiment surtout le côté harmonique, quoi. Et tout le long, je crois que j'ai eu une bonne histoire d'amour musical avec Francis pendant très longtemps.
Alors du coup, le Cameroun vous doit beaucoup à tous les deux, en termes de rayonnement international, culturellement parlant, lui avec son rôle à l'UNESCO notamment, sa musique évidemment, et puis vous avec tout ce que vous avez fait dans votre carrière, ce parcours autour du monde.
En tout cas, chacun de nous a marqué notre pays, hein, d'une certaine empreinte à apprécier par le pays. Mais il est clair qu'on a fait connaître le Cameroun différemment, quoi. Voilà, en tout cas culturellement parlant, artistiquement parlant, certainement.
Aussi vous tapez vos sons, on boit na et pas si n'est pas si on boit.
Une réaction, qui dit Bébé.
Super surprise, pour merci Manu infiniment. Merci, effectivement, vibraphone, piano, saxophone, on était dans ce monde-là et Manu était là souvent. C'était notre tonton Manu, en fait.
Oui, c'est ça. Alors, il a tenu la surprise, hein. Normalement, il ne vous a pas appelé.
J'avoue que je suis épatée, la classe.
La librairie francophone est aussi donc une passerelle entre les artistes et écrivains francophones, c'est ce qu'on souhaite chaque semaine, qui dit Bébé. Alors, pour votre famille au Cameroun, qui dit c'est compliqué, cet exil pour la France, au départ très provisoire, hein, va devenir définitif, mais vraiment malgré eux, parce qu'ils essayent de rentrer au Cameroun.
Ils essayent de rentrer, mais il se passe une chose, c'est que le Cameroun est effectivement en train de chercher son indépendance et de l'obtenir, je dirais, pas si facilement que ça. Il y a une résistance à la présence française et ensuite au gouvernement qui se met en place. Et mon oncle, le frère aîné de mon père, est impliqué dans cette résistance.
C'est ça, ouais.
Donc voilà, le retour présumé est problématique.
Accusé de trahison, Marcel, il va connaître les geôles du pouvoir. Il est pourtant nommé député, mais il finira en prison, torturé. Et il va mourir à la sortie de prison. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Il est chirurgien, il ressort de prison aveugle et il meurt dans des circonstances pas encore tout à fait déterminées. Donc oui, il y a un vrai problème, un problème dramatique même, de cette résistance camerounaise. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie d'écrire le livre. Et en même temps, je voulais montrer que cet exil involontaire, eh bien, il pouvait servir à se transcender.
Oui,
parce
c'est
que c'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé. On termine sur la guitare de Francis Bébé. Merci beaucoup, qui dit Bébé.
Merci à vous.
Merci infiniment. Mon royaume pour une guitare, est publié aux éditions Michel Lafon. C'est un bel hommage à votre père, disparu en 2001 déjà. Vous jouez un peu de guitare, vous?
Non, mais je danse.
Ah ouais, vous n'avez pas pris le relais de la guitare?
Oh là là, on ne va pas se confronter à des choses trop difficiles.
Par le mouvement du corps, c'est déjà pas mal. À suivre, les conseils des libraires pour l'été et un reportage dans les coulisses du Parlement européen avec le Belge Grégoire Paulet. Avant cela, voici le tube francophone de la semaine avec Étienne Dao. Merci à vous d'écouter La Librairie Francophone.
Je suis ailleurs, mais où est-ce d'ailleurs? On me trouve parfois là sous les toits. Il est en l'air un monde un peu meilleur. Tu me retrouves parfois
Étienne Dao avec Bleu comme toi sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Dans cette plus grande librairie du monde cette semaine, les libraires vous conseillent un livre pour l'été dans la catégorie des essais cap sur la Belgique, Annick Dor, une histoire de burn-out pour l'été.
Voilà, oui, donc pour l'été exactement, je vous propose un essai sur le burn-out parental. Alors vous me direz, c'est vrai que ça fait pas très playa, mais je vous répondrai que si le livre vous permet d'en sortir ou d'éviter de tomber dedans, finalement ça vous promet d'excellentes vacances. Alors on est dans une société quand même qui renvoie sans cesse l'image d'une parentalité positive et parfaite. Eh bien malheureusement, à trop vouloir atteindre cet idéal, eh bien certains parents craquent. Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on en guérit. Et donc lisez ce livre cet été pour retrouver les forces et savourer à nouveau la joie d'être parent à la plage, à la montagne ou même à la maison.
Merci Annick. Le burn-out parental, l'éviter sans sortir, aux éditions Odile Jacob. Grégoire Courtois pour la France. Vous avez fait un burn-out, vous ?
Non, mais je pense que si vous lisez ce livre, vous risquez peut-être d'en faire un. Puisque,
c'est génial, vous avez des super conseils, hein, c'est magnifique. Hein.
Non, mais du gore, oui. Du sexe, de l'humour régressif, mais oui Emmanuel, vous en rêviez, oui, Olivier Bruno l'a fait.
Le sexe, de l'humour et du gore, oui, pourquoi pas.
Voilà, exactement, c'est un livre qu'on pourrait qualifier de série Z littéraire, hein. C'est un peu une espèce de... Alors je vous dis vite fait, hein, c'est un groupe d'étudiants qui partent dans les bois, à côté d'une famille de dégénérés paysans qui vont bien évidemment leur tomber sur le dos. Ça commence en orgie, ça finit en bain de sang.
Enfin, c'est voilà, une blague.
Non, mais c'est vraiment, c'est un roman qui est fait évidemment pour les amateurs de série Z à la télévision ou au cinéma, mais que voilà, c'est vraiment pas à prendre au sérieux du tout.
Dirty Sexy Valley d'Olivier Bruno aux éditions Le Tripode.
C'est bien
si,
ça.
Si c'est un piège, ça va mal se passer, Grégoire. On retourne à Bruxelles, au Parlement européen, loin de l'ambiance porno-gore de Grégoire Courtois, pour un entretien-reportage avec l'écrivain Grégoire Paulet, un autre Grégoire dans une nouvelle version pour ce florilège de la saison.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Voilà, on est arrivé au Parlement européen avec Grégoire Paulet et puis nous sommes sur un espace multimédia, un grand plateau de télévision avec des écrans partout autour de nous, aux couleurs de l'Europe évidemment, un studio d'enregistrement radio, internet et ce plateau télé. Nous sommes au centre. Bonjour Grégoire Paulet.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous au Parlement. Qu'est-ce que vous ressentez ici ?
Moi, j'ai toujours l'impression que le Parlement, c'est vraiment l'endroit du citoyen. Il n'y a rien à faire. C'est le seul endroit où le pouvoir citoyen commence directement. Après, ça devient plus opaque. Au Parlement, on y a accès comme ça. D'ailleurs, il y a plein de gens autour de nous qui ne sont pas du tout des députés, plein de gens de... Voilà, on dirait presque un hall de gare et je trouve ça très bien.
Alors, dans votre nouveau roman qui sort chez Gallimard, dans la collection Blanche, vous imaginez un nouveau modèle politique belge et français généré par des citoyens indignés qui s'appuie en fin de compte sur l'Union européenne. C'est un déni de démocratie de délaisser le Parlement européen ?
Oui, certainement. Je pense que quand on regarde l'histoire de l'Union européenne, le Parlement a commencé avec très peu de pouvoir et il en a pris de plus en plus. Ce pourquoi l'Europe n'est pas assez démocratique, c'est parce qu'elle délaisse le pouvoir de son Parlement. Alors que c'est au Parlement, véritablement, que se joue voilà, l'Europe comme un peuple, les citoyens d'abord. C'est sûr que c'est un déni de démocratie que d'en faire une sous-institution.
Mais évidemment, quand on parle des accords commerciaux, je pense des accords commerciaux avec l'Amérique, le Canada, les États-Unis. On dit beaucoup de choses là-dessus. Est-ce qu'ils sont vraiment à la faveur des citoyens ?
Et ça, justement, si jamais le Parlement avait plus de pouvoir... Si, autrement dit, si jamais les États exigeaient ça, parce que qui pourra décider ça ? C'est les États, d'accord ? C'est au Conseil. Ces accords internationaux, ils se font où ça ? Ils se font au Conseil, d'accord ? Ce sont donc les gouvernements nationaux qui, dans le secret du Conseil, décident de lancer ce genre d'immense projet. Après ça, on accuse l'Europe de l'avoir fait, alors que ce sont les gouvernements nationaux qui l'ont fait dans le Conseil. Si jamais le Parlement était souverain sur ces questions-là aussi, je vous assure que le projet du TTIP, par exemple, aurait eu beaucoup plus de difficultés à passer tel quel, parce que le Parlement est par définition un organe non opaque, alors que le Conseil est par définition un organe opaque. Donc là, il y a toute une sorte d'hypocrisie qui rend évidente l'intérêt des citoyens à ce que le Parlement ait son mot à dire partout. Dans mon roman, je pars d'un constat, le divorce entre le peuple et le monde politique, qui est un grand danger pour la démocratie, puisque c'est la porte ouverte au populisme. Je pars de ce constat-là, et puis après, quand j'écris un roman, qu'est-ce que je fais ? J'imagine. Je reprends les 4 dernières années, ou les quelques dernières années, et j'imagine ce que tout ce mécontentement, toute cette frustration, mais aussi ce désir citoyen d'une nouvelle démocratie, aurait pu donner. Donc, effectivement, c'est une révolution tranquille, parce que le fin fond de la démocratie, c'est de dire toute majorité importante a le droit de proposer la direction de la société.
Et donc les citoyens reprennent le pouvoir.
Voilà, dans ce roman, D'accord. Les citoyens reprennent le pouvoir.
Alors on va voir si les citoyens peuvent aller dans l'hémicycle. En tout cas, nous, on va y aller. On va imaginer ça, cette politique fiction. Allons-y. On va traverser une partie du Parlement européen ici à Bruxelles. Vous écoutez la librairie francophone au Parlement européen pour la première fois dans l'histoire de l'émission. Il y a des plateaux situations partout. Les plateaux situations, ce sont des plateaux de télévision. On installe une caméra, un écran, un projecteur et puis les journalistes font leurs interventions comme ça. On a des plateaux situations donc un peu partout ici dans cet espace. Alors, on va passer dans les coulisses du Parlement européen. Alors ça, c'est assez unique. On a heureusement les autorisations pour. On va prendre un escalier de service que personne ne voit, voilà, qui est juste là, tout petit. Allez-y, Grégoire.
Tout de suite, il n'y a plus la loi.
moquettes.
Voilà, il n'y a plus de moquettes. C'est tout gris. On a des tubes d'aluminium qui servent de rampe et puis un escalier avec quand même des antidérapants. Alors on va monter à l'hémicycle et on va aller dans la tribune de l'hémicycle, ici au Parlement européen à Bruxelles. Voilà, on arrive avec cette porte automatique. Ouais. Voilà, donc tous les pupitres. Hein.
On se croirait un peu dans une soucoupe volante quand même, non? C'est un peu Star Trek.
C'est exactement ça, c'est exactement ça.
Dans ce roman Fleuve, il y a aussi quelques idées intéressantes, Grégoire Paulet. On a même l'impression que vous avez vraiment réfléchi à monter un mouvement politique. Par exemple, il y a une idée qui pourrait supprimer les impôts pour tout le monde. Votre mouvement, tous, imagine une taxe de 0,2% sur les transactions électroniques. Qui paye ce pourcentage?
Ah ben bien sûr, c'est celui qui achète. Donc,
c'est le consommateur.
C'est le consommateur, pas ouais. Seulement le consommateur, mais aussi le banquier quand le banquier achète des devises, mais aussi l'industriel quand il achète sa matière première. Et donc, à tous les niveaux, mais ça c'est une idée qui a été développée par l'université de Zurich, ils ont fait des calculs pour la Suisse, si 0,2% sont prélevés sur tous les paiements électroniques, pas seulement vous avec votre carte de banque à la boulangerie ou au magasin de vêtements, mais aussi l'industriel quand il achète son acier en Inde, si tout ça est, on fait un prélèvement de 0,2, c'est-à-dire que ça va pas peser très lourd, ça remplace carrément l'impôt sur le revenu.
Et ça, c'est possible vraiment.
Mais alors,
pourquoi personne n'a cette idée-là? Parce que du coup, c'est facile, pour le coup. Alors, c'est populaire.
Mais bien sûr, c'est une idée fantastique. Et d'ailleurs, dans le roman, on la met en application. Et dans le roman, on explique pourquoi aussi elle est difficile à mettre en application. Parce que l'inertie des gouvernants est très, très grande. La pression sur eux est très, très grande. Si jamais vous avez des citoyens au pouvoir, vous avez potentiellement une démocratie petit à petit beaucoup plus réactive, beaucoup plus rapide, beaucoup plus inventive et moins sujette aux pressions des lobbies.
Vous vous présentez quand, Grégoire?
Moi, je suis.
Vous le montez quand, ce mouvement?
Moi, je suis un romancier. Moi, j'écris dans ma chambre.
On va quitter cet hémicycle avant que vous soyez comme ça en haut de l'estrade, là, président du Parlement. Et on va se retrouver dans un endroit très protocolaire ici, où on n'a pas accès d'habitude. C'est un endroit là aussi qui fait partie des coulisses du Parlement, puisqu'on va aller dans l'entrée protocolaire où passent finalement tous les chefs d'État, tous les invités de prestige qui viennent voir les députés ou la Commission ou le Parlement.
Hop, avec le strapontin.
Ou un strapontin. Ah oui, il y a un petit
strapontin.
Dans l'ascenseur.
Ah ouais, pour les gens qui ont mal aux genoux. Et en fait, ici à Bruxelles, le Parlement se réunit seulement pour les commissions. Les plénières, c'est toujours à Strasbourg, une fois par mois. Ouais. Ici, c'est plutôt des salles plus petites pour les commissions parlementaires.
Voilà.
C'est là que les chefs d'État descendent, tu vois, et puis qu'ils sont attendus par les journalistes. Ils font leurs petits points.
On est sur un tapis bleu.
Là, tu as l'entrée vers le Spinelli, et il y a un des deux bâtiments. Et ici, on est dans le Paul-Henri Spaak. Les bâtiments portent des noms de grands députés ou de fondateurs.
Hein. Alors, vous évoquez plein de choses qu'on a connues, et notamment une action terroriste qui va permettre à l'un de vos personnages de devenir un héros, une héroïne. Ouais. C'est une femme. Cette action terroriste, très troublante, car on pense évidemment à ces attaques du 22 mars, vous faites une démonstration. Vous dites que la violence est trop au centre d'intérêt des médias. Vous écrivez « Tant que les médias agiront ainsi, le terrorisme sera efficace ».
Oui, il y a une récompense médiatique à tout homme qui mord un chien. Hein, vous savez, on apprend ça dans les écoles. Donc il y a une récompense médiatique à la violence, c'est vrai, et le terrorisme, sans ça, évidemment, ne fonctionnerait pas. On ne peut pas demander non plus aux médias de taire, bien sûr, les événements. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un rapport direct entre l'intérêt morbide que nous pouvons avoir pour ce qui va mal... le pessimisme ambiant, c'est sûr. Et donc les médias ont leur rôle à jouer, ils doivent être toujours ouverts, toujours libres. La démocratie et les médias sont quelque chose d'ouvert et de vulnérable. N'importe qui, avec des mauvaises intentions, peut l'utiliser à de mauvaises fins. La violence et le terrorisme utilisent les médias à cette mauvaise fin-là. On n'en peut rien, on ne peut rien y changer, mais on peut en être conscient au moins, pour essayer de rentrer le moins possible dans ce jeu-là.
On va terminer, Grégoire Paulet, avec le photocall, comme on dit, c'est pas très francophone, mais en tout cas c'est un espace de photographie avec estrade et puis deux drapeaux européens, un fond bleu évidemment avec la représentation de l'hémicycle et ce tapis bleu, une nouvelle fois, notre photographe, il n'y en a qu'un. C'est Jean-Philippe Béret, notre collaborateur. Merci beaucoup Grégoire Paulet, entouré par ces drapeaux européens, on va terminer cette émission. Merci à vous, tous viennent de paraître dans la collection Blanche chez Gallimard. C'est un grand livre parfaitement d'actualité. Merci Grégoire.
Merci beaucoup Emmanuel.
Dans cette plus grande librairie du monde, Jérémy Laniel, vous avez choisi un recueil de poésie. C'est ce que vous conseillez aux auditeurs pour l'été.
Absolument. Forêt d'indices de Véronique Cyr. Il s'agit ici du cinquième recueil de la poète. Un recueil tout en nostalgie. Je crois que c'est une lecture parfaite pour un soir d'été arrosé au soleil de fin de soirée ou au vin blanc, vous savez. C'est un recueil qui recèle les amourettes qui étaient des odyssées à l'époque, ces amours qui nous ont fait promettre devant l'éternel de ne plus jamais aimer autant. Mmh. Un recueil qui s'est aussi serré qu'une forêt vierge où chaque indice se trouve au détour d'un poème qu'on voudrait bien relire une deuxième fois. Ça vaut vraiment la peine de se plonger là-dedans.
Et ça donne envie, effectivement. Merci Jérémy. On termine avec la Suisse Claire Renaud avec un roman, Claire.
J'ai un coup de cœur Playa, alors, plutôt. Celui de Marie Javet, qui pose une question qui nous concerne tous. Peut-on fuir une réalité qu'on est incapable d'affronter en se réfugiant dans le mensonge ? La petite fille dans le miroir, titre de ce roman, raconte l'histoire d'une romancière à succès, poursuivie par un secret trop bien gardé pendant 20 ans et qui va finir par hanter ses nuits et sa vie.
Très bien, c'est un premier roman, La petite fille dans le miroir, aux éditions Plaisir de lire. Merci Claire. La librairie francophone dernière de la saison pour un florilège. Dans un instant, une séquence humour à ne pas manquer avec Alain Chamfort, Leïla Slimani, Tara Benjelloun et Jean Ziegler. Et nous irons aussi chez Jean d'Ormesson pour un entretien sur la vie. Avant cela, on fait un petit voyage musical à Bamako avec le groupe malien Sangoy Blues.
Il est 21h au clock, me voilà sur la route. Mais tous les restos immeubles de la capitale sont déjà sold out. C'est le rendez-vous du peuple au Carrefour de la joie. Nord-East et Sud-East, on s'éclate sur la même piste. C'est beau de voir tous ces couples bien habillés qui nous arrivent en bout. Les idées sexy, les gars sont chauds. Oh, 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 c'est chaud. Ah, ah.
Songoy Blues, Bamako, sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS, et sur France Inter. On vous emmène à présent chez Jean d'Ormesson pour un entretien autour de son livre « Guide des égarés » dans sa maison et dans son bureau en France, à Neuilly-sur-Seine.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Bonjour Jean d'Ormesson.
Bonjour.
Alors votre livre, Jean d'Ormesson, est un manuel. Il y a même un mode d'emploi. La question centrale, qu'est-ce que je fais là? Vous vous posez toujours cette question-là?
Écoutez, c'est une question que je me suis toujours posée. Je me rappelle très bien qu'enfant, à 6 ans, peut-être 7 ans, je jouais avec des petits amis et tout à coup, je m'arrêtais en me disant, mais qu'est-ce que je fais? Je vous assure, mais à quoi ça sert? Mais où est-ce que je vais?
Ce que vous faites là, à ce moment-là, dans cette situation donnée, ou ce que vous faites là sur Terre, tout simplement?
Les deux.
Ah oui.
Vous savez, le point de départ de ce livre, dont il faut dire d'abord qu'il est très, très court.
Oui, mais très, très dense.
J'ai écrit des livres très longs, celui-là est un peu serré. Le point de départ, c'est l'étonnement. Et vous savez, l'étonnement, c'est un sentiment proprement philosophique. Et évidemment, la philosophie vient d'une interrogation. À quoi sert le monde? Qu'est-ce que je fais là? Ou la fameuse question qui m'a tant occupé, qui avait été posée par Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien?
Et c'est vrai que le mot du livre... C'est le mot mystère. Tout est mystère. Et plus que le mystère, la vie regorge de secrets. Le sens de notre vie est un secret. Et pire, c'est que l'on accepte tous de vivre sans connaître les limites de l'univers, sans même maîtriser la définition de l'espace et de l'infini.
Mais oui, en effet, l'espace, qui est si simple, eh bien cet espace, nous savons désormais qu'il n'a pas toujours existé. Et il naît d'un point minuscule au moment du Big Bang qui se développe, qui est cet espace en expansion, qui est toujours là. Et alors vous voyez, l'espace est extraordinaire, l'air qu'on respire, c'est extraordinaire.
L'eau, la lumière aussi.
L'eau, n'en parlons pas, quelle matière étonnante.
Matière improbable, vous dites.
Matière improbable. Vous pouvez entrer dans l'eau et l'eau peut entrer dans vous. Enfin, c'est tout à fait stupéfiant. Et donc, le monde est en effet un mystère. Pour aller très très vite, on peut dire que Dieu est tout à fait invraisemblable.
On va revenir à Dieu. Oui.
Mais le monde, avant de parler même de Dieu, le monde... est invraisemblable aussi.
Alors du coup, vous nous conseillez dans ce livre de fermer les yeux, de profiter, et je cite, de profiter d'une existence qui est une sorte de miracle, soyons heureux. Jean d'Ormesson, quand on lit cette phrase, on se dit, est-ce qu'on peut vraiment être heureux dans ce monde concurrentiel, ce monde qui nous oblige à nous dépasser, à dépasser les autres aussi parfois, le monde de l'entreprise, le monde des médias, tout ce monde-là, c'est un acharnement permanent, on le voit, vous l'avez vécu vous-même ça?
Oui, je l'ai vécu, je ne peux pas vous dire que je l'ai aimé, cet acharnement, je ne l'ai pas aimé. J'ai été chef d'entreprise puisque j'ai été directeur général d'un grand journal français, le Figaro. J'ai compris assez vite que je n'aimais pas recevoir des ordres. Je n'aime pas beaucoup en donner. Je n'aime pas beaucoup le pouvoir, pour tout vous dire. Ce que j'aime plutôt, c'est traverser le monde en rêvant et peut-être en essayant d'en tirer le plus de bonheur possible. Mais il y a une malédiction, c'est que je crois qu'on ne peut pas être heureux tout seul. Je cherche beaucoup à être heureux, mais je ne peux pas réussir à être heureux si les gens sont trop malheureux autour de moi. C'est pour ça que je suis venu ici, non pas vous parler de grands problèmes, d'humanisme, des droits de l'homme, mais pour que vous alliez mieux, pour que je puisse être heureux.
Mais vous dites aussi que la souffrance est une sorte de prix à payer pour la vie.
Il y a des souffrances qui auraient pu vous faire vaciller. Vous en avez connu des souffrances, forcément, comme tout le monde.
Oui, j'ai une très très bonne santé, mais j'ai eu des problèmes de santé assez graves il y a 3 ans. Ça va bien maintenant, mais c'est une expérience, vous savez. C'est pas une expérience tellement pour soi-même. J'ai vu des gens, vous savez, tellement malheureux à l'hôpital. J'ai vu des gens tellement malheureux. Et j'ai vu aussi des gens merveilleux qui les soignaient.
C'est un recueillement, la musique aussi. Il y a des prêtres qui disent, puisque vous êtes catholique, que c'est une forme de prière. Et vous êtes très délicat avec la religion dans ce livre. Vous êtes très délicat avec Dieu. Vous prenez comme ça des précautions, peut-être pour ne pas le froisser. Oui. Mais l'air de rien, vous posez la question de son existence. On a l'impression que vous avez un petit peu peur de lui, quand même, s'il existe.
Mais écoutez, je vais vous dire... Encore une fois, j'espère mourir dans la religion catholique, mais Dieu m'a refusé un don qui est la foi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère qu'il existe. Parce que s'il n'existe pas, tout ce que nous voyons autour de nous est vraiment tellement abominable. Alors vraiment, la seule espérance, c'est Dieu. Et évidemment, j'ai une grande espérance en Dieu.
Entre le plaisir, la liberté et la joie, 3 paramètres de la vie que vous abordez dans 3 chapitres de ce livre d'ailleurs. Lequel choisissez-vous pour terminer cet entretien ? Le plaisir, la liberté ou la joie ?
Écoutez, j'ai beaucoup aimé le plaisir. J'ai beaucoup aimé le plaisir.
J'en étais sûr, vous alliez répondre ça.
J'étais un homme de plaisir. Oui.
Même si le plaisir, vous dites, n'a pas bonne réputation, il coûte cher, mais c'est surtout le compagnon du désir.
Oui, la liberté, j'ai adoré la liberté. Si j'ai été quelque chose, c'est libre. Mais il y a quand même une chose qui est supérieure au plaisir, supérieure à la liberté, supérieure au bonheur, c'est la joie. La joie, vous savez, c'est ce qui vous transporte. La joie, c'est ce qui frappe les amants qui se retrouvent.
Une grâce venue d'ailleurs.
C'est une grâce venue d'ailleurs.
Sans vos mots, ça.
Ça nous fait monter au 7e ciel.
Vous n'avez pas choisi, Jean, hein, entre les 3. Vous êtes malin parce que vous décrivez les 3. Vous commencez par le plaisir, mais vous n'avez pas choisi.
Oh, bah, je choisirais sans hésitation la joie.
Ah, sans hésitation la joie. Ah, vous changez alors, oui. Je crois que c'était le plaisir.
Mais il n'est pas interdit d'aimer ce qu'on méprise. Je méprise plutôt le plaisir.
Mais le plaisir provoque de la joie de toute façon. Ou c'est la joie qui provoque le plaisir?
Ah non, le plaisir éloigne de la joie, écarte de la joie. Si vous vous perdez dans le plaisir, vous ne ressentez plus cette joie que vous donne Mozart, un lever de soleil. Pour les gens de plaisir, vous savez, le lever de soleil ou le coucher de soleil, c'est presque rien.
C'est banal. Oui.
Alors que la joie est là. Quelle est la joie? C'est de vivre.
Êtes-vous un sage? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous fait peur ou qui vous contrarie au point de gâcher des moments, au point de gâcher une journée?
Vous savez, il y a très peu de choses qui me contrarient maintenant. Je dois vous dire, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup de choses. J'aimais beaucoup les souliers, les chaussures. J'aimais beaucoup les chemises. J'aimais follement les voitures. Si on rayait ma voiture, ça me rendait malade. Et bien maintenant, ça m'est complètement égal. Vous pouvez rayer ma voiture tant que vous voulez. Ça m'est complètement égal. Donc j'ai pris peut-être une espèce de sagesse. Mais je me rappelle très bien quand j'étais jeune que je regardais avec beaucoup de mépris les vieillards, souvent académiciens, qui donnait des conseils aux jeunes gens.
Ça vous énervait?
À vrai dire, ça faisait plus que m'énerver. Je les vomissais.
Carrément.
Oui, je vomissais. Et je me suis juré que je ne serais pas le vieillard qui dit aux jeunes gens « Ah, c'était mieux avant ». Vous savez, je ne crois pas que c'était mieux avant.
Vous n'êtes pas réactionnaire, alors ?
Je crois qu'il est très bon de réagir.
Oui.
Mais dire que c'était mieux avant, je n'en crois rien du tout. Et pour tout dire, ce qui m'intéresse, même à mon âge, c'est l'avenir. J'ai un maître qui est un grand philosophe, qui est Woody Allen, et qui dit « l'avenir m'intéresse parce que c'est là que j'ai l'intention de passer mes prochaines années ».
Merci beaucoup Jean d'Ormesson, merci infiniment pour cet entretien délicat chez vous ici dans votre maison de Neuilly. Merci pour votre accueil.
Merci à vous, j'étais enchanté de parler avec vous.
Merci beaucoup Jean. Guide des égarés est paru chez Gallimard en coédition avec les éditions Héloïse d'Ormesson, que l'on salue au passage Héloïse. Merci beaucoup Jean, à bientôt.
Merci, c'était épatant, c'était très très bien. Et mille vœux pour la francophonie.
On termine cette émission avec un petit cadeau pour vous. Voici une compilation de moments loufoques avec Alain Chamfort, le prix Goncourt 2016, Leïla Slimani et un échange caustique entre Jean Ziegler et Tahar Ben Jelloun dans le cadre de Radio France Fête le Livre. Alain Chamfort est dans la librairie francophone pour son livre intime, anti-biographie musicale, paru au Cherche Midi. Laura Sanchez est en Suisse. Que voulez-vous dire Alain Chamfort, Laura ?
Eh bien moi, ça m'a vraiment amusé de croiser tous ces grands noms de la chanson et de la scène française. Mais il y a une chose, moi, qui m'a gênée dans l'écriture, c'est-à-dire dans l'intention. C'est-à-dire que le récit est franc, mais en même temps, vous vous justifiez ou vous vous excusez de le faire. Et pour moi, c'était un peu dérangeant.
Mais il fallait charger comme ça sans s'excuser.
Ouais, exactement.
C'est une façon de voir, oui, Laura. Jérémy Laniel au Canada.
Oui, ben, ne le prenez pas mal, Monsieur Chamfort, hein, mais j'avais aucune idée que vous étiez avant de me plonger dans votre antibiographie. L'âge oblige.
Non, l'âge oblige quand même.
Ben c'est vrai, je suis allé très peu souvent au Québec, j'en regrette d'ailleurs, ah ouais, parce que j'aimais bien. Mais la dernière fois que j'ai dû y passer, ça devait être en 1976. Donc,
oui, il n'était pas né, Jérémy.
Voilà. J'étais pas né, malheureusement. N'en demeure pas moins que le projet qu'on ouvre au départ, cette anti-biographie musicale, est assez sympathique. Je la conseille à quiconque vous aime bien. C'est un parcours, somme toute, intéressant. C'est vraiment efficace sur l'histoire personnelle.
Voilà, ben écoutez, maintenant, il faut écouter les disques d'Alain Chamfort. Hein,
voilà, c'est cette semaine, je fais ça. Là.
C'est du grand n'importe quoi, Alain Chamfort, à l'époque. Hein. Vous avez failli adopter un bébé guépard avec Jacques Dutronc. Dutronc qui, lui, va adopter le guépard.
Bah lui, il souhaitait que je... C'est-à-dire ouais, qu'on était ensemble à ces factoristes, un magasin parisien qui n'existe plus aujourd'hui. Et arrivé dans ce bar, il me propose de partir avec un guépard. J'ai dit, enfin, tu ne penses pas, je ne vais pas rentrer chez moi, chez mes parents. En plus, j'habitais encore chez eux à l'époque. Mais c'était parce qu'il voulait justifier le fait d'en acheter un pour lui.
Et il en achète un, donc.
Et il en a acheté deux, non, parce qu'on était trois. Bon, là, on était avec un ami photographe qu'il a réussi à convaincre d'accepter de repartir avec un guépard.
Donc le guépard est dans la maison de Dutronc.
Donc le guépard
il s'appelle
pendant
Sumo.
6 mois.
Dans 6 mois.
Et pendant les 6 mois qu'on allait chez Jacques, chaque semaine qui passait, le guépard il grandissait de 10 ou 10 cm. C'est-à-dire qu'après, on entre dans la maison, il se jetait sur nous comme un petit chat, si vous voulez, sauf qu'il
jouait
avec les dimensions que ça fait, ses griffes. Enfin, il nous laminait les pantalons, il nous enroulait de salive. Enfin, c'était juste une horreur. Quoi.
Et Dutronc l'enfermait dans la salle de bain avec des lapins vivants pour qu'il chasse.
Oui, parce qu'il fallait conserver son instinct de chasseur. Donc, il jetait une poule ou un lapin et il fermait la porte. Non,
c'était
un carnage,
complètement fou. Complètement fou. Le succès arrive assez vite hein, pour vous, Alain Chamfort. Il y a ce titre qui va vous faire connaître, c'est Manu Reva, une collaboration avec Gainsbourg, avec qui vous faites le difficile. Hein. Vous dites ces textes ne vous conviennent pas. Le titre, Adieu California non plus, ça marche pas. Quoi. Ouais, jusqu'au jour où il vous fredonne Manu Reva au téléphone.
Oui, et il y a eu comme... Enfin, j'ai ressenti une satisfaction, quoi. C'est-à-dire que, c'est vrai, les textes doivent effectivement ne pas desservir les musiques. Hein. Mm-hmm. Bon, c'est quand même la moindre des choses. Donc, et du California n'avait pas ce rôle-là.
Et il vous appelle, et juste au téléphone, vous décrochez, c'est Gainsbourg, et il dit oui. « Manu Reva ».
Voilà, et c'était gagné. Oui.
Bonjour Leïla Slimani.
Bonjour.
On commence toujours cette émission par une histoire racontée par l'un de nos invités. Vous avez carte blanche, anecdote personnelle, étonnante. Que voulez-vous transmettre, Leïla?
Donc mon roman qui s'appelle Chanson douce, c'était un roman à propos d'une nounou. Et depuis qu'il est publié, je reçois beaucoup d'histoires de femmes qui ont des nounous. Et notamment cette histoire d'une femme qui m'a raconté qu'elle avait embauché une nounou philippine qui a vécu chez elle pendant très longtemps. Et qu'un soir, la DGSI est arrivée chez elle, a demandé à la dame de les suivre au ministère de l'Intérieur. Ils ont amené la dame. Et en fait, sa nounou était une djihadiste. Oh. Ils lui ont montré des photos de la nounou qui avait un AK-47, un bandeau sur le... Ouais. Et évidemment, la femme a eu la frayeur de sa vie. Ils n'ont jamais retrouvé la trace de sa nounou. Et voilà, j'ai eu beaucoup d'histoires comme ça sur des nounous assez étonnantes. Une autre qui s'est mariée avec le mari, qui a quitté sa femme pour la nounou.
Ouais, ça arrive.
Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous de ceux avec qui vous vivez, quel qu'il soit.
C'est un carnage absolu, parce qu'entre votre livre et votre histoire, le marché de la nounou va s'effondrer.
Bah, c'est les gens qui me racontent ça, qu'est-ce que vous voulez que je
vous dise ? C'est terrible, Leïla.
Bah ouais,
vous rendez compte de la responsabilité ou pas ?
Oh non, mais arrêtez, vous allez me faire stresser.
La lutte de classe est une évidence absolue. 1% de la population du monde a autant de fortune aujourd'hui que 99% de la population du monde. Donc la résistance, l'insurrection des consciences, l'organisation populaire est plus nécessaire, plus urgente que jamais, avant que cette planète implose complètement.
Alors vous dites d'ailleurs qu'on pourrait mettre dans un bus tous les riches et que ce serait l'équivalent du PIB de dizaines, de centaines de pays, juste dans un bus.
Si on prend les 85 personnes les plus riches de la Terre, on les met dans un bus, vous cumulez une fortune qui vaut celle de 3,5 milliards d'êtres humains. C'est-à-dire incroyable. Exactement la moitié de l'humanité doit se contenter d'autant de biens qu'ont les 85 personnes les plus riches de la Terre. L'inégalité, la misère faite, l'exploitation, domination de l'homme sur l'homme est le scandale absolu de notre temps.
Est-ce que, Jean, tu peux me donner l'adresse et le numéro de matricule du bus où il y a 85 personnes
les plus riches du monde.
Ah oui ?
Ah bah oui.
Ils sont parfaits. Les truands qui dominent la planète.
Ah ça, ils vous l'avaient relancé.
Ah non. On va être amis avec
mais
eux.
Mais mon livre s'appelle Chemin d'espérance.
Chemin d'espérance aux éditions du Seuil. Vous pouvez applaudir Jean Ziegler. Avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone avec le groupe français aux influences jamaïcaines, Jim Murple Memorial, qui reprend un titre des Chats Sauvages.
C'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue, n'importe où. C'est pas sérieux, mais c'est bon, mon amour, quand ta bouche affamée se promène sur mon cou. Et moi, je suis timide. Depuis que tu m'aimes, comment le cacher sans tricher? Qu'on affiche sans pudeur, c'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue qui nous voit avec ses yeux trop curieux tout autour. Alors viens bon chez moi, viens chez moi, viens chez moi.
Jim Murple Memorial avec C'est pas sérieux que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Hélène Bizio avec Nicolas Delmas, Djoubaka à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France. Martine Béguin-Felet avec Annick Chouin en Suisse. René Mikils et Valérie Elput en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. Merci à eux pour leur collaboration tout au long de cette saison. Un grand merci aussi de la part de toute l'équipe pour votre fidèle écoute de la librairie francophone cette saison encore. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. C'est un grand honneur que vous nous faites. Et n'oubliez pas, dès la semaine prochaine, la librairie francophone estivale, ouverte à toutes les cultures et à toutes les disciplines, un autre grand voyage culturel qui, je l'espère, vous fera rêver. Bon week-end et bon été à tous.